Docteur Anne Deprin, bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle simplement à nos auditeurs que vous aviez déjà fait une émission sur Radio Maria dans le cadre des émissions sur la pastorale de la santé. C'était le 27 février 2020, où vous aviez donné votre témoignage. Mais pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu cette émission, est-ce que vous pouvez vous représenter en quelques mots?
Oui, tout à fait. Donc, je suis donc Anne Deprin, je suis médecin généraliste de formation. Et puis après, j'ai fait donc une formation en tabacologie. Donc, j'ai exercé dans ce cadre-là à l'hôpital de Bordeaux. Et après, donc, mon mari était muté sur Rennes. Et là, donc, j'ai fait une formation plus longue en addictologie, donc sur 2 ans. Et donc, je travaille donc dans le domaine de l'addictologie dans un XAPA, c'est-à-dire un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Donc, où nous faisons avec mes collègues, en recevant des patients qui souffrent d'addiction aux produits, donc ou alors d'addiction comportementale. Donc, c'est un centre de consultation qui éventuellement peut orienter dans un second temps vers une hospitalisation, donc si besoin. Donc voilà, donc ça fait maintenant presque 10 ans que je travaille dans le domaine des addictions. Voilà.
Alors justement, vous allez nous parler aujourd'hui des addictions dans une première partie de votre exposé de manière générale, et ensuite on s'intéressera davantage au tabac. Et
Exactement.
donc nous vous écoutons.
Voilà. Oui, du coup, c'est intéressant de faire une petite généralité sur les addictions parce qu'on va voir qu'en fait, effectivement, toutes les addictions ont un petit peu, on va dire, le même type de fonctionnement. Et donc, c'est important d'avoir une compréhension un peu plus globale. Avant, les personnes qui souffraient d'addiction étaient prises en charge en fonction des conséquences de leurs addictions. Donc, ainsi, les fumeurs pouvaient être pris en pneumologie ou en cardiologie. Les patients qui avaient des consommations d'alcool excessives étaient pris plutôt en hépato quand il y avait une cirrhose, etc. Mais il n'y avait pas de prise en charge spécifique de l'addiction, notamment dans sa composante de psychologie. Et donc, ça, c'est depuis une vingtaine d'années qu'on a vraiment pris conscience, finalement, qu'il y avait des modes de fonctionnement un petit peu communs, enfin des mécanismes un petit peu communs, et même des mécanismes au niveau neurobiologique qui étaient similaires, donc basés sur le système de la récompense. Et du coup, c'était aussi compliqué pour les gens qui ont des polyaddictions de saucissonner, on va dire, la prise en charge. Et là, donc, actuellement, on vise une prise en charge globale de la personne, non plus en tant que enfin, non plus en tant que le fumeur, mais en tant que la personne qui a une addiction au tabac. Donc l'addiction, c'est un mot assez récent en fait qui est surtout plutôt connu en anglais comme addiction, mais qui a une origine latine et ça veut vraiment dire, à l'époque, c'était un terme qui s'appliquait au droit romain pour les esclaves. Et donc on voit bien que dans ce terme déjà d'addiction, étymologiquement, il y a cette notion de perte de liberté. Donc il y a un psychologue américain qui a bien défini l'addiction en 90. Donc l'addiction, c'est un comportement, donc c'est pas une pensée. C'est vraiment un comportement, c'est-à-dire un acte, une action observable par quelqu'un de l'extérieur et qui a du sens pour la personne. Voilà, pour la personne qui l'a fait, pas forcément pour ceux qui observent, mais pour la personne qui fait, il y a un sens. On va voir après lequel. Donc c'est un comportement et donc qui vise à produire du plaisir, surtout au niveau de l'addiction, au début de l'addiction, pardon, la cigarette, jouer par exemple, boire un verre d'alcool. Il y a un plaisir qui va s'installer et puis à la fin, ça va plus être pour le plaisir, mais pour éviter le déplaisir lié au manque. Voilà. Donc le but pour la personne, voilà, ils sont pas maso les personnes qui ont des addictions. On va voir d'abord qu'on peut tous en avoir, mais donc il y a vraiment un but et le but c'est de soit avoir du plaisir, soit soulager ou au contraire un syndrome de manque, soulager une sensation de malaise interne, voilà. Et ce comportement est caractérisé par l'impossibilité répétée de le contrôler dans le temps. Donc on ne va pas parler d'addiction au bout de 2-3 jours. Il faut vraiment une installation sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec des caractères bien définis, pour poser le diagnostic d'addiction. Et donc, et ce, malgré la connaissance des conséquences négatives. Donc la personne, elle sait effectivement que fumer, il y a des risques pour la santé. Mais voilà, là, on va voir que l'addiction est plus forte que la compréhension, que la connaissance. Voilà. Donc ça, c'est une définition assez globale, mais qui comporte vraiment différents paramètres qui permettent de, voilà, de bien comprendre. Et on va voir que tout va se passer au niveau du cerveau, parce que les substances, eh bien, que ce soit l'alcool, le tabac, le cannabis, etc., vont avoir une action au niveau de certains récepteurs du cerveau et qui vont notamment déclencher une libération de neuromédiateurs qui vont, comme la dopamine, entre autres, et qui vont proposer développer donc une sensation de plaisir. Et donc, ce qui est très vicieux avec les addictions, c'est que cette sensation de plaisir ou de soulagement ne va pas durer. Voilà. Donc, la personne, elle, va avoir en souvenir, effectivement, ce soulagement. Et donc, dès qu'il ne va plus avoir cette impression de soulagement, de plaisir, de détente, eh bien, il n'y a qu'une envie, c'est d'y revenir, en fait. Et donc, c'est le cercle un petit peu vicieux qui s'installe à ce niveau-là, à savoir un plaisir immédiat, mais qui, finalement, entraîne un esclavage, une dépendance. Donc à la fin, c'est une attitude qui va devenir une habitude et qui va devenir une servitude donc à la fin. Et donc cette, quand je dis ça se passe au niveau du cerveau, on peut le comprendre hein, pour les substances qu'on introduit dans notre organisme, hein, comme de l'alcool ou comme de la nicotine par les poumons. Mais ça marche aussi pour les addictions dites comportementales, donc sans substance, puisque là aussi, par exemple, le jeu va déclencher des décharges, par exemple, d'adrénaline, des hormones un peu du stress, et donc la personne va devenir addict à ça. Donc addiction, on va voir qu'on parle de façon très large, donc les addictions qui sont des addictions de consommation, on va dire pathologiques de substances psychoactives, donc qui peuvent être légales, mais réglementées comme la cigarette ou l'alcool, qui peuvent être bien sûr illégales en France, comme le cannabis, la cocaïne, l'héroïne et d'autres substances de synthèse, les champignons, les psilocybines, etc. Et également, on peut avoir des addictions aux médicaments, donc certains médicaments antalgiques, certains médicaments tranquillisants, anxiolytiques, comme les benzodiazépines. Voilà. Donc tout ça peut être source d'addiction. Et puis il y a les addictions comportementales, donc sans substance, comme les addictions au jeu, donc jeux d'achat et d'argent, jeux vidéo, les addictions type les achats compulsifs, les troubles des conduites alimentaires, les addictions au sport, au sexe, etc. Voilà, tout peut être finalement source d'addiction. Et donc, on va voir que le problème, ce n'est pas en soi un verre d'alcool, ce n'est pas en soi jouer au loto un jour, un vendredi 13. Le problème, ça va être la relation que la personne va établir avec ce comportement ou avec cet objet-là. Voilà. Et donc, on peut être non-usager. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais joué, jamais bu. On peut avoir un usage tout à fait simple. Voilà, on boit occasionnellement une coupe de champagne. Et puis, on peut passer dans l'usage à risque. Donc là, c'est ce qu'on appelle le mésusage, usage à risque, usage nocif, ou alors le stade ultime qui est le stade de la dépendance. Voilà. Et donc, on va voir qu'il y a comme une gradation et qu'on peut éventuellement faire marche arrière. Il y a des gens qui peuvent avoir, par exemple, une dépendance au jeu et avec qui on arrive à progresser, à avancer. Et puis, la personne peut arriver à jouer, par exemple, de façon très occasionnelle. Voilà. C'est plus compliqué, par exemple, pour l'alcool, une fois qu'on a été dépendant à l'alcool, de pouvoir garder une consommation très occasionnelle. On va voir que c'est beaucoup plus compliqué. Donc le stade de la dépendance, c'est vraiment donc le stade ultime, en fait, on va dire, de l'addiction, avec souvent des modifications. Donc au niveau de notre corps, par exemple, les personnes qui fument, on va voir que quand on fait des IRM fonctionnels, ils vont avoir beaucoup plus de récepteurs à la nicotine au niveau de leur cerveau qui vont se développer, et donc effectivement qui fait qu'ils vont être beaucoup plus en manque dès qu'ils arrêtent de fumer. Au stade de dépendance, il y a vraiment la notion de perte de contrôle sur le produit ou le comportement. La personne a essayé de réduire, a essayé d'arrêter, mais elle n'y arrive pas. Et finalement, le produit ou le comportement va prendre beaucoup de place dans la vie. Hein, ça fait partie des critères de dépendance. C'est-à-dire que la personne, par exemple, va peut-être arrêter certaines activités pour se concentrer sur le produit. Il y a également un état affectif négatif associé au manque. Donc ça peut être tout simplement le syndrome de sevrage ou tout simplement une dépression. Par exemple, l'alcool en soi est dépressionnelle. La personne qui est prise dans la spirale du jeu, effectivement, elle aussi va avoir des symptômes dépressifs qui peuvent être liés aux dettes, qui peuvent être liés au fait d'être obligée de cacher sa pratique de jeu, etc. Dans la dépendance, on va voir ça aussi pour la cigarette tout à l'heure, il y a une dépendance physique, c'est-à-dire le corps qui va réclamer avec ce qu'on appelle le phénomène de sevrage hein, quand on arrête. Et donc là, il y a un syndrome de manque avec le phénomène de tolérance qui fait que la personne est obligée, par exemple, d'augmenter ses consommations pour le même produit. Et puis, il va y avoir enfin la dépendance dite psychique, hein, c'est-à-dire quelle fonction, le produit ou le comportement a pour la personne. Et donc la dépendance psychique, ça va être l'alcool qui va être une fonction, on va dire, d'oubli, d'anesthésie du quotidien, une fonction anti-angoisse, donc anxiolytique. Et là aussi, ce qui est très vicieux, c'est que l'alcool qui semble être sur le point d'antidépresseur puisqu'on oublie, va au contraire être dépressiogène et va entraîner une dépression. Et puis, il y a la dépendance dite comportementale, qu'on va voir très bien aussi avec la cigarette. C'est tout ce qui va être la notion de gestuelle, de rituel, de conditionnement. Le café avec la cigarette avec le café, la cigarette avec l'apéritif, la cigarette pause au boulot, etc. Et donc tout ça, cette dépendance, on va voir qu'il y a des critères qui ont été définis par des psychiatres et des psychologues et des addictologues, hein, des critères de façon objective. Ou par exemple, si on cote plus de 4 critères sur les 12 derniers mois, sur eh bien oui, effectivement, on va parler de dépendance. Donc, est-ce que tous on peut être dépendant? C'est bien sûr la question des auditeurs et de nos patients. Bah, bien sûr, on peut tous être dépendant et on a tous peut-être des dépendances. Et la limite, en fait, ce qui va poser problème, ça va être du côté des conséquences et des dommages subis par la personne qui a la dépendance et par son entourage. Et donc, on va voir rapidement que ces dommages-là peuvent être des dommages physiques. Donc pour la santé notamment au niveau de la cigarette, ça c'est une évidence. Hein. Ça peut être des dommages physiques pour des pratiques de jeu importantes, on parle des problèmes de dos, des problèmes de sommeil, des problèmes ophtalmo, etc., des problèmes musculo-squelettiques. Ça peut être des conséquences psychologiques, comme j'ai dit, dépression, majoration de l'angoisse, etc. Le cannabis, il y a certains jeunes qui vont rentrer dans des pathologies de type psychotique avec des utilisations donc schizophrène par exemple, avec des utilisations répétées de consommation par exemple de cannabis dès l'adolescence. Il peut y avoir des conséquences familiales, hein, notamment avec l'alcool et le jeu, des conséquences professionnelles. Moi j'ai des patients qui ont, suite à des problèmes d'alcool, effectivement des avertissements, des blâmes, voire des mises à pied. Des conséquences sociales et financières, on les comprend bien, voire des conséquences judiciaires donc pour le jeu et l'alcool. Donc ça va être important aussi à chaque fois de pouvoir bien lister tout ça, pour pouvoir aussi, c'est un élément de motivation voilà, pour la personne. Très souvent, il y a des polyconsommations, polydépendances, qui peuvent être en même temps ou alors de façon séquentielle. Très souvent, des anciens héroïnomanes vont développer une dépendance à l'alcool par la suite. Et donc, voilà, on a vu que en fait, toutes ces dépendances-là peuvent fonctionner un peu de façon similaire. Alors, une autre petite question rapidement, pourquoi est-ce qu'on est dépendant? Ça, c'est la bonne question. On va voir que, bien sûr, il n'y a pas une seule réponse, c'est multifactoriel. On dit souvent que la dépendance est une équation à 3 facteurs, ça va dépendre de la personne, du produit et puis de son environnement. Donc la personne, ça peut être de son tempérament. Il y a certains tempéraments de personnes très timides, peut-être qui ont du mauvaise estime d'eux-mêmes, du mal à rentrer en interaction avec les autres, voilà, qui peuvent utiliser des produits justement pour se désinhiber, notamment l'alcool. De l'autre côté, il y a certaines personnes, certains jeunes, notamment qui ont des besoins, des recherches de sensations, de nouveautés, et donc là, qui peuvent les pousser à expérimenter des produits. Donc plus on expérimente, plus on prend le risque que ça accroche et qu'on devienne dépendant. Les personnes qui ont des maladies psychiatriques comme la bipolarité ou la dépression sont plus à risque de développer des addictions. Là aussi, je dis bien à risque, hein. C'est juste un risque statistique. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont déprimées vont avoir des soucis d'alcool, mais voilà, une association qu'on observe. Et génétiquement, effectivement, il y a la génétique a une place, notamment au niveau de l'alcool. Hein. Ça aussi, ça a été observé. Donc on a la dépendance est liée à l'individu, va être liée aux produits. On a des produits qui sont de toxicité, de potentiel addictif variable. La cigarette, par exemple, n'a pas un potentiel, une toxicité sociale importante, mais une toxicité physique très importante et donne une dépendance en général très forte assez rapidement, aussi forte que celle de l'héroïne. L'alcool, parmi tous les gens qui consomment de l'alcool, il n'y en a pas tant que ça qui deviennent dépendants, donc le potentiel addictif n'est pas important. En revanche, la toxicité pour le corps, donc physique, et la toxicité psychologique au niveau du psychisme est vraiment importante en revanche. Et donc ce qui va jouer également, c'est l'environnement familial, effectivement. Un enfant qui a des parents fumeurs augmente son risque de devenir le même fumeur x6. Donc là aussi, risque statistique, hein, on ne peut pas généraliser, mais voilà, on voit qu'il y a un surrisque. L'environnement social, le rôle de ce qu'on appelle des pairs, c'est-à-dire si on est dans un groupe où tous les copains boivent ou fument, bah, c'est beaucoup plus dur de résister. Le niveau milieu culturel, milieu social, les événements de vie peuvent jouer également un rôle dans l'apparition d'une addiction, un divorce, un chômage. Voilà, ça peut effectivement entraîner une sorte de rupture, hein, et du coup le produit peut s'installer. Donc en addictologie, nous avons des tests que nous utilisons pour évaluer effectivement les dépendances, donc des tests spécifiques à chaque produit, donc des tests pour le tabac, pour l'alcool, pour le jeu, etc. Moi, souvent, ce que je dis aux gens, ben, quand ils me disent est-ce que je suis dépendant, je dis ben, faites-moi un petit test, essayez de faire quelques heures ou une journée en vous sevrant de votre téléphone, en vous sevrant du tabac, en vous sevrant, etc. Et voyez comment ça se passe. Et voilà, donc ça permet déjà d'avoir une petite indication. donc très rapidement les pistes, on va dire, thérapeutiques. Donc les prises en charge en addictologie sont souvent longues. Donc au niveau de notre XAPA, on voit que ce sont des prises en charge multidisciplinaires, puisque dans notre équipe, nous avons des psychiatres, addictologues, médecins généralistes addictologues comme moi-même, des psychologues, des infirmières, des nutritionnistes, des assistantes sociales. On a des réunions d'équipe effectivement pour proposer la prise en charge la plus adaptée possible. Donc ça peut être souvent long, hein. Il y a des personnes qu'on suit sur des années, avec la rechute, il faut souvent, on va dire, dédramatiser, elle est souvent la règle. On essaie de la considérer plutôt comme une expérience, un succès différé, et non comme un échec irrémédiable, en se disant, j'ai rechuté par rapport à ma consommation de tabac, qu'est-ce qui fait que j'ai rechuté? On essaie un petit peu d'analyser le contexte pour ne pas recréer cette situation-là. Donc il y a des traitements de substitution qui sont possibles pour certains produits, notamment pour la cigarette, je vais en reparler tout à l'heure. Les prises en charge, le plus souvent, se font en ambulatoire, c'est-à-dire en consultation externe. Quelquefois, il peut y avoir besoin d'hospitalisation pour des sevrages d'alcool, par exemple. Les suivis psychologiques sont en parallèle très recommandés, hein, si la personne, bien sûr, adhère. On travaille aussi avec des entretiens motivationnels en se basant sur les ressources de la personne, en essayant de les mobiliser pour qu'elle puisse tout mettre en œuvre pour tenir. Des travaux de groupe, quelquefois aussi dans notre unité. L'objectif peut être l'abstinence totale de l'addiction, donc du comportement ou de la substance, ou alors peut-être une réduction de risque, si la personne ne s'en sent pas capable tout de suite d'arrêter. Ça peut être une étape. Donc on prend en charge les autres comorbidités, c'est-à-dire les autres maladies, si besoin, psychiatriques, hein. S'il y a besoin de prendre en charge une dépression, associée, bien sûr, ça va être pris en charge. Et puis, on va travailler aussi sur... pour la personne, proposer d'autres centres d'intérêt pour pouvoir s'épanouir. Parce que quand on enlève une addiction, ça fait la nature a horreur du vide et il ne faudrait pas qu'autre chose se mette. Soit l'addiction revienne, soit une autre addiction. Et donc, on va travailler effectivement pour développer d'autres compétences pour la personne en s'appuyant sur ce qu'elle aime faire. Voilà. Donc, ces addictions, effectivement, représentent un vrai problème de santé publique en France. Depuis de nombreuses années, mais on en prend d'autant plus conscience qu'on voit que ça s'aggrave en plus, hein, notamment au niveau des jeunes. Donc on essaye de développer des programmes de prévention, puisque bien sûr, qui dit prévention et dépistage le plus précoce possible dit qu'effectivement on a plus de chances de s'en sortir et on limite les conséquences de l'addiction. On essaye de prendre vraiment la personne dans sa globalité, dans toutes ses dimensions, avec un suivi souvent au long cours. L'attitude de l'addicto, c'est vraiment une attitude de bienveillance et d'empathie. Donc, on n'est absolument pas là pour juger. On n'est pas là pour donner des mauvaises notes, etc. On est là pour écouter, pour essayer de se mettre à la place de la personne. C'est vraiment ça, l'empathie, que la personne se sente comprise. On n'est pas là ni pour approuver, ni pour juger. Mais en tout cas, que la personne comprenne, qu'on comprend qu'elle ressent. En fait. Voilà. Et puis après, on est là pour proposer des pistes. Hein. La base en addictologie, bien sûr, c'est le volontariat. On ne va jamais réussir à forcer quelqu'un à arrêter une addiction sur des moyens de contourner. Et donc, le travail, c'est vraiment de s'appuyer sur la personne, sur ses motivations, de les renforcer pour qu'il puisse arriver à son objectif. Grosso modo, c'est un travail passionnant au niveau humain, au niveau médical. C'est pas toujours gratifiant, hein, parce que c'est ce que je vous disais, il y a des rechutes, etc. Mais au niveau humain, je trouve ça vraiment, vraiment passionnant. Voilà. Donc très rapidement, quelques petites pendant 10 minutes sur le tabac, puis après je resterai disponible pour les questions. Donc le tabagisme est aussi une addiction, ce que les gens appellent quelquefois une addiction douce, mais c'est l'addiction qui tue le plus en France. On évalue à peu près à 75 000 morts par an en France, donc les morts liées au tabagisme, donc beaucoup plus que additionner les accidents de voiture, les accidents domestiques, les suicides, etc. Donc c'est énorme, hein. Donc le tabac tue du fait de ses conséquences sur la santé, que ce soit le cancer du poumon, les autres cancers, il n'y a pas que le cancer du poumon, il peut y avoir le cancer de la vessie, il peut y avoir tous les problèmes type cardiovasculaire, donc les infarctus, tous les problèmes typiquement pulmonaires comme la BPCO, l'emphysème, l'insuffisance respiratoire. Voilà. Donc tout ça, c'est les principales maladies qui peuvent entraîner une surmortalité. Puis le tabac est un facteur de risque pour d'autres maladies comme l'hypertension, etc. En France, depuis, on va dire, 3 ans, on observe pour la première fois une baisse du tabagisme. Il y a environ 30% de fumeurs en France. ce qui représente quasiment 1,9 million de moins qu'en 2017, donc 16% de moins. Donc c'est une très grande victoire qui est due principalement à plusieurs choses. Hein. Le fait que le prix du tabac augmente de façon assez régulière et de façon assez, on va dire, massive. La prise en charge des substituts nicotiniques, dont je vais parler dans deux secondes, qui a pu aider également toutes les campagnes du mois sans tabac, tout le développement des aides en fait pour les personnes pour arrêter. Il y a une sorte quand même de prise de conscience, notamment chez les jeunes, que le tabac finalement c'est pas si fun que ça. Donc voilà, il y a et puis le développement de la cigarette électronique, enfin ce qu'on appelle la cigarette électronique, que moi je préfère appeler la vapoteuse aussi, qui a permis à beaucoup de gens de décrocher du tabac. Voilà. Donc il y a tout ça, tous ces facteurs-là expliquent qu'actuellement, donc on a une baisse du tabagisme en France, donc on n'est pas aussi bon encore que les Anglais qui sont à 20% de fumeurs, mais voilà, ça diminue doucement, donc c'est déjà quelque chose dont on peut se réjouir. Alors la dépendance au tabac, c'est une dépendance qui est souvent assez forte. Il n'y a pas beaucoup de fumeurs qui arrivent à fumer juste une cigarette de temps en temps. Donc le potentiel addictif est très fort. Il y a une dépendance dite physique. Donc c'est le corps, en fait, quand on va fumer. Donc la fumée de cigarette qui contient 4000 composés va passer dans les poumons. Et donc, à travers les poumons, vont arriver très vite au niveau du cerveau, en quelques secondes, donc au niveau de certains récepteurs. Et là, la nicotine, qui est la substance principale responsable de la dépendance, va se déposer sur ces récepteurs et va entraîner à la libération de dopamine, qui est une hormone de plaisir et de bien-être, enfin un neuromédiateur. Et du coup, effectivement, quand les gens me disent « je fume, ça me calme », oui, ils ont raison, ça ne dure pas. Mais voilà, il y a effectivement cette impression-là pendant quelques minutes de soulagement. Et donc, la dépendance physique va être vraiment liée à cette action de la nicotine, qui est courte, malheureusement. Et cette action de la nicotine, finalement, voilà, et explique ce principe de la dépendance. Et du coup, plus la personne va être dépendante, plus elle va avoir des besoins élevés en nicotine, plus elle va avoir besoin de fumer de façon rapprochée, voilà, pour éviter le manque. Hein. Quand on est en manque de nicotine, tous les fumeurs qui vont essayer d'arrêter ou qui n'ont pas pu fumer, par exemple, un voyage en avion ou une hospitalisation, vont vous dire que le syndrome de manque de nicotine se manifeste en général par une irritabilité, une nervosité, on peut avoir une augmentation de l'appétit, et puis ce qu'on appelle un craving, qui est un terme générique en addiction, c'est-à-dire un besoin vraiment irrépressible, une grosse envie de fumer qui peut faire péter le plomb. Moi, j'ai un patient une fois en cardio qui avait arraché toutes ces perfusions qui étaient sorties dans le couloir pour fumer. Voilà, il était quand même pour un infarctus, donc c'est pour vous dire le besoin de fumer était vraiment majeur. Voilà, donc la dépendance physique, c'est ça. La dépendance psychologique, c'est la fonction attribuée par la personne à la cigarette. Donc ça va être la fonction plaisir, détente, amélioration de la concentration, etc. Et plus on va attribuer, bien sûr, une fonction importante. Il y a des gens qui me disent la cigarette, c'est mon oxygène, ma cigarette, c'est ma liberté, vous voyez. Donc à l'inverse de ce que c'était en réalité, pour vous dire à quel point où la cigarette, c'est ma béquille. Et c'est, voilà, le soir, c'est mon petit temps de repos sur mon balcon, c'est mon petit moment à moi. Voilà, donc tant que c'est important ça dans la vie de la personne, ça va être compliqué de s'y attaquer. Et il va falloir travailler sur qu'est-ce qui peut être une béquille autre, qu'est-ce qui peut être mon espace de liberté, qu'est-ce qui peut être mon petit moment à moi. Et donc voilà, et là, en général, on discute avec la personne pour trouver d'autres choses. Donc dépendance donc psychologique, et puis la dépendance comportementale, c'est tout ce qui va être la gestuelle. On va dire le rituel, mettre la main à la poche, allumer la cigarette, etc. Et là, il y a tout un conditionnement. Les gens vont me dire, ben moi, sur mon trajet de voiture, à tel rond-point, je m'arrête, je fume. Ma pause à 10 heures avec mon café, c'est la cigarette. Voilà, il y a une sorte de conditionnement. Et avec souvent d'autres produits qui vont renforcer l'effet, donc le café et l'alcool, notamment, sont les plus connus. Donc là aussi, c'est important avec la personne de repérer tout ça, puisque qu'est-ce qu'on va faire à la place? Donc quelquefois, ça peut être des aménagements intérieurs. Hein. Par exemple, moi, je fume en faisant des jeux sur mon ordinateur dans ma chambre. Si je mets l'ordinateur, par exemple, dans le salon, si je mets l'ordinateur dans ma chambre, je ne fume pas dans ma chambre, donc je peux faire mes jeux dans ma chambre sans fumer. Vous voyez, donc on travaille un petit peu sur tout ça. Donc voilà, les trois sortes de dépendances qu'on évalue avec la personne fumeur. La base, quand même, c'est vraiment la motivation de la personne qui vient en disant, voilà, je veux arrêter de fumer. Et donc ça, c'est vraiment la base. Voilà. C'est ça, sur ça, on va s'appuyer. Et puis, on va demander à la personne pourquoi vous voulez arrêter de fumer. Alors, ça peut être pour ma santé, ça peut être pour l'argent, ça peut être parce que j'en ai marre d'avoir un fil à la patte et d'être dépendant, etc. Donc on va s'appuyer sur ces motivations-là que les personnes vont leur dire, mais vous souvenez, vous avez dit que vous vouliez économiser pour vous acheter telle chose, donc voilà, on va ramener la personne dans sa motivation première. Alors, comment arrêter de fumer ? Vaste question. Il n'y a pas de méthode miracle, ça serait non. La personne ferait fortune. Il y a différents moyens proposés qui peuvent marcher pour certains, pas pour d'autres, qui peuvent marcher pour certains moments, pas à d'autres moments. Voilà, donc ce qui vaut le coup, c'est d'essayer du coup. Donc il y a les moyens dits reconnus officiellement par la Haute Autorité de Santé, qui sont les substituts nicotiniques, qui peuvent être... qui sont remboursés depuis 2019 et qui peuvent être prescrits sur prescription donc du médecin généraliste. Ça peut être une infirmière, un dentiste, un kiné, une sage-femme, donc pour les femmes enceintes et l'entourage, etc. Donc ces substituts nicotiniques, c'est tout simple. Le principe, c'est d'apporter de la nicotine à la personne de façon à ce qu'il n'y ait pas ce syndrome de manque. Voilà, combler les fameux récepteurs à la nicotine au niveau du cerveau qui appellent et donc les combler par de la nicotine apportée d'une autre façon. Avec pas tous les autres produits toxiques qui sont dans la fumée de cigarette, parce que la toxicité vient essentiellement aussi de la combustion de la cigarette. Donc c'est sûr que quand vous prenez un patch de nicotine ou un comprimé, il n'y a pas de combustion, donc on n'a que de la nicotine qui n'est pas cancérigène, voilà, mais qui va, on est d'accord, maintenir l'addiction, mais en tout cas diminuer le manque, et le but étant d'arrêter effectivement progressivement ensuite ces substituts à la nicotine. Donc ça peut se présenter sous forme de patch ou de timbre transcutané, ça peut se présenter sous forme de pastilles, de gomme à mâcher, sous forme d'inhaleur, donc un petit embout plastique, ça peut sous forme de spray buccal. Le plus utile et le plus, on va dire, efficace, c'est d'associer le patch plus l'effort moral. Donc le patch qui diffuse de la nicotine sur la journée, et puis ensuite, ponctuellement, si on a une envie de fumer, hop, je prends une pastille, hop, je prends une gomme à mâcher, voilà, etc. Donc ça, ce sont les méthodes reconnues, prouvées officiellement, donc tous les substituts nicotiniques. Il y a également deux médicaments qui s'appellent le Zyban, bupropion, le champixin, ou le vrai nom c'est varenicline, donc là qui sont des médicaments de prescription médicale qui ont fait leur preuve, voilà, mais qui ont des indications bien particulières, donc ça c'est à voir avec un médecin, idéalement tabacologue. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les TCC, thérapie cognitive ou comportementale, donc il faut un praticien formé. Donc les autres méthodes qui peuvent exister, qui n'ont pas fait la preuve, on va dire, officielle par des études de leur efficacité, ça va être tout ce qui va être hypnose, tout ce qui va être acupuncture, auriculothérapie, mésothérapie, homéopathie. Donc il existe beaucoup de moyens, le MDR, etc. Il y a des gens qui vont arrêter en lisant le bouquin d'Alan Carr, qui est un bouquin sur l'art comment arrêter de fumer, etc. Et donc un autre moyen qui actuellement se développe beaucoup et qui est regardé de près par nous, parce que par les tabacologues, c'est la vapoteuse. La vapoteuse qui garde la gestuelle, donc c'est intéressant pour les addictions comportementales, qui peut ou pas apporter la nicotine, donc on peut être avec ou sans nicotine, mais qui n'a pas de combustion. Donc avec la vapoteuse, on n'a pas le goudron, on n'a pas le monoxyde de carbone, on a beaucoup de substances. Voilà, en termes de toxicité, il n'y a pas photo. La toxicité de la vapoteuse est vraiment à des degrés, on va dire à des années-lumière de celle de la cigarette. Donc certes, on n'a pas encore beaucoup de recul, mais quelqu'un qui n'arrive pas à arrêter de fumer avec tous les moyens traditionnels, voilà, s'il peut arrêter de fumer en vapotant, on va considérer que c'est quand même un gain, ça c'est sûr, pour sa santé. Voilà. Donc je dis vraiment à ce moment-là, arrêter complètement de fumer, parce que les vapofumeurs, c'est-à-dire les gens qui alternent tabac, fumée, donc cigarette et vapoteuse, tant qu'il y a de la comment dire, de l'intoxication avec la fumée de cigarette, on garde le risque. Hein. Le risque pour le tabac, c'est beaucoup plus sur la durée que sur la quantité. Parce que plus l'exposition est longue aux produits de la fumée de cigarette, plus le risque augmente. Il vaut mieux fumer finalement pas longtemps beaucoup que fumer moyennement sur du long terme. Voilà. Donc j'ai été très très vite. Donc et puis il y a sur les réseaux sociaux, donc il y a le Mois sans tabac, il y a Tabac Info Service, il y a Stop Sabac CH, qui est fait par les Suisses, il y a sur Facebook le groupe Je ne fume plus. Voilà, tout ça, ce sont des supports très intéressants.
Alors, Anne Deprin, vous nous avez parlé en deuxième partie du tabagisme. Une des raisons pour laquelle des personnes arrêtent de fumer, c'est souvent l'arrivée d'un enfant au sein de la famille. Et parfois, donc, les mères qui sont enceintes, même en sachant qu'il y a des risques potentiels pour leur enfant, n'arrivent pas à arrêter de fumer. Est-ce que vous pouvez nous parler des risques pour l'embryon et le fœtus, du tabagisme de la maman ?
D'accord, oui, tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose justement qu'on a observé. On était à un congrès l'année dernière sur femmes et tabac, et effectivement, il y a quasiment un bon tiers des femmes enceintes qui n'arrivent pas à arrêter de fumer, voilà, à l'annonce de leur grossesse. Alors c'est étonnant. Moi, ce que j'observe, c'est souvent tout ou rien, c'est-à-dire soit la femme sait qu'elle est enceinte et là pour elle c'est une évidence, elle arrête de fumer, soit c'est pas une évidence et là ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc donc les gynécologues avaient tendance à dire avant, oui, alors c'est pas grave, il vaut mieux fumer que d'être stressé pendant la grossesse. Alors c'est vrai que ça nous fait un peu bondir, parce qu'effectivement, il y a quand même des conséquences, hein. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc la fumée de cigarette, en fait, comment dire, arrive dans les poumons, donc les substances ensuite passent dans le sang, et qui sont dans le sang, et eh bien effectivement, c'est que ça va dans le système sanguin de la maman, et donc ça va arriver via le cordon ombilical jusqu'au bébé. Et donc le bébé, effectivement, il va avoir du monoxyde de carbone notamment, et le monoxyde de carbone, c'est une molécule qui se met sur les globules rouges à la place de l'oxygène, et donc le bébé est moins bien oxygéné. Donc en moyenne, je dis bien en moyenne, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui me disent « moi j'ai fumé toute ma grossesse, j'ai eu un bébé en parfaite santé », mais en moyenne, les bébés de maman fumeur sont plus petits, on appelle une petite hypotrophie, hein. Ils ont 300 à peu près grammes de moins, donc c'est pas grave pour un bébé qui fait 4 kilos, mais sur un bébé d'un plus petit poids, c'est plus embêtant. Donc le risque d'accouchement prématuré, le risque de rupture prématurée de la poche des os, le risque des mal rétro-placentaires, tout ça, ce sont des risques qui sont statistiquement augmentés chez les fumeuses. Donc voilà, et puis donc de complications donc liées à l'accouchement. Également, on a observé plus de morts subites du nouveau-né chez les mamans fumeuses. Voilà, donc, il y a vraiment et plus d'enfants qui sont plus soumis aux infections de type ORL, otite et autres, quand il y a un environnement fumeur à la maison. Donc, et on sait aussi que le tabac ne déclenche pas l'asthme, mais aggrave la gravité des crises et la fréquence. Donc c'est vrai que ce soit pour la grossesse ou pour la petite enfance, le tabac, c'est voilà, le bébé, il prend tout ça, c'est sûr. Après, notre discours n'est pas non plus un discours de culpabilisation de la femme. On a des moyens, je parlais tout à l'heure des substituts nicotiniques, pardon, les substituts nicotiniques peuvent être tout à fait prescrits chez la femme enceinte. On privilégie des pâtes, notamment sur 15 heures, enfin sur 16 heures, pardon, au lieu des pâtes sur 24 heures. Et on va beaucoup travailler au niveau psychologique, surtout sur le travail sur l'estime de soi, que la personne puisse, la femme enceinte puisse prendre confiance en elle, en sa capacité d'être une bonne mère. Voilà, on va travailler aussi sur des attitudes, on va dire ce qu'on appelle les alternative en fait, voilà, au tabac pour gérer ça. Donc ça peut être du pas sophro, des choses comme ça, de la relaxation, de la piscine, plein d'activités qui vont pouvoir effectivement pallier éventuellement s'il y a un stress, une tension, une irritabilité, une nervosité, voilà, liée à la question du tabac chez la femme enceinte. Et également savoir pour les personnes qui désirent concevoir que le tabac limite diminue la fertilité et de l'homme et de la femme. Donc moi j'avais fait une intervention pour des couples en désir d'enfant, effectivement, et alors après, c'est vrai qu'ils m'ont dit « oui, vous êtes gentil, on a déjà un parcours compliqué, si en plus il faut arrêter de fumer, ça rajoute du stress, voilà. » Mais enfin, aussi statistiquement, on voit bien que la fertilité diminue chez l'homme et chez la femme quand on fume. Et ce qui est la bonne nouvelle, en revanche, c'est que c'est réversible à l'arrêt du tabac. Donc en 2-3 mois, voilà, on peut, entre guillemets, récupérer une fertilité, on va dire meilleure, celle qu'on aurait eue si on ne fumait pas. Voilà. Donc c'est sûr que tabac et femmes enceintes ne font pas bon ménage. Et je vous dis, c'est souvent difficile, hein, notamment en Bretagne, moi je viens de Rennes, donc on n'est pas bon à ce niveau-là. On essaye de développer ça dans les maternités, etc., avec les sages-femmes. Les gynécologues de plus en plus en prennent conscience, effectivement. Mais voilà, il y a des moyens d'aider. On y arrive. Ça peut passer par une réduction, hein. Souvent, les femmes arrivent à réduire. Elles ont du mal à passer à l'étape au-dessus. Mais c'est là que c'est important de pouvoir se faire aider, donc par des consultations spécialisées de tabacologie, soit au sein des maternités, soit aux sages-femmes libérales, soit en centre comme nous, en centre de consultation d'addictologie, où il y a donc effectivement aussi de la tabacologie. Mais c'est vrai que c'est tout bénef, hein. Tout bénef. Voilà, il y a même des femmes enceintes, voilà, des femmes, pardon, accouchantes qui peuvent allaiter. On peut allaiter en fumant, c'est pas recommandé, mais le bénéfice de l'allaitement est supérieur. Dans ce cas-là, on recommande de fumer juste après l'allaitement pour que voilà, la substance tente un peu de se dissiper. Mais voilà, l'allaitement reste bénéfique même dans ce cadre-là, même si c'est pas l'idéal. Voilà. Mais voilà, ce qui est surtout important, c'est de ne pas se sentir culpabilisé et de se faire aider si on souhaite arrêter de fumer, parce qu'il y a quand même tout bénéfice pour le bébé, de même que les recommandations actuelles sont zéro alcool. pendant la grossesse. Voilà, au niveau du tabac, c'est sûr qu'il y a des bénéfices importants à pouvoir arrêter de fumer pour notre bébé et, voilà, et pour soi-même. Voilà.
Alors, vous nous avez également parlé des jeunes et j'ai un souvenir d'une jeune fille de 17 ans il y a quelques années avec qui j'avais discuté de tabac parce qu'elle fumait, elle s'était mise à fumer pour maigrir et je lui avais dit mais pourquoi tu n'arrêtes pas de fumer? Elle me dit oh, mais il faut que je perde encore un peu de poids et de toute façon maintenant j'arriverai pas à arrêter, c'est trop tard.
Alors, effectivement, il y a cette idée-là. Alors, c'est pas complètement faux, c'est-à-dire que quand on fume, le fait de fumer, ça va modifier notre métabolisme. Donc, on va augmenter la lipolyse, c'est-à-dire on va plus brûler nos graisses, on va diminuer la lipogénèse, on va diminuer le fait, comment dire, de d'amasser, on va dire, plus de graisse. Et pour le même effort, le fumeur entre guillemets, utiliser plus de calories que le non-fumeur. Donc c'est vrai que quelqu'un qui va commencer à fumer va perdre, mais elle ne va pas perdre 10 kilos, il peut perdre effectivement 2-3 kilos. Et inversement, quelqu'un qui arrête de fumer sans substitut nicotinique, sans rien, il peut prendre 2-3 kilos. Et ça, c'est physiologique. Hein. C'est la cigarette fait qu'effectivement, on perd un peu de poids. Et quand on arrête de fumer, on peut prendre du poids. Mais il y a un tiers des patients qui n'en prennent pas, 2/3 qui en prennent. 2-3 kilos, bon, quelquefois, ils prennent plus parce qu'il peut y avoir une compensation. Et donc, les gens vont se mettre à manger parce qu'il y a un besoin d'oralité, de mettre un truc à la bouche. Donc, souvent, on récupère du goût de l'odorat, donc on a encore plus envie de manger. Ouais. Donc, il y a ces deux phénomènes-là qui vont faire qu'il y a des gens qui peuvent prendre effectivement quelquefois 10 kilos. Mais ce n'est pas la règle générale. Hein. Souvent, il y a des gens qui ont peur de ça. Donc, voilà. Après, effectivement, ce qu'aurait décrit la jeune fille dont vous parlez, c'est tout à fait classique. C'est-à-dire des gens qui vont commencer à fumer comme ça, en soirée, ou effectivement, prendre, voilà. Et puis, au moment où ils vont se dire, bah, tiens, il faut que je fasse gaffe, je suis en train de devenir dépendante, il faut que j'arrête, et ben, c'est trop tard, entre guillemets. La dépendance est déjà installée et c'est pas toujours facile. Voilà. Après, c'est vrai que si une jeune fille de 17 ans fumer pour perdre du poids, voilà, ça peut interroger aussi. Peut-être qu'il n'y a pas un côté, soit un trouble des conduites alimentaires, soit une. Voilà. Conduite peut-être, enfin, il n'y a pas une conduite de type anorexie associée, des choses comme ça, parce que c'est vrai que c'est pas complètement banal, mais voilà, ça peut exister. Ça repose ce que je vous disais sur effectivement le fait que la nicotine a un effet coupe-faim et physiologiquement, effectivement, au niveau de l'organisme, va faire qu'on va un petit peu maigrir. Et voilà, mais c'est pas, enfin, je veux dire, ça ne doit pas être utilisé dans le but-là, mais même si ça a pu l'être. Mais en revanche, on est vigilant quand on suit des gens pour un arrêt de tabac. On est vigilant par rapport à la prise de poids. Moi, chaque fois que je reçois les gens, je dis bah, où est-ce que vous en êtes au niveau de votre poids, etc. Donc, très souvent, il y a quand même à côté de ça des petites crises de boulimie sur le sucré, notamment, etc. Donc, c'est ça qu'il va falloir travailler. Donc, on va travailler sur la reprise de sport, on va travailler sur éventuellement un suivi nutritionniste associé, etc. Parce qu'il y a une compensation alimentaire souvent associée qui va aggraver ça. Mais c'est vrai que voilà, tabac et poids, voilà, il y a une interaction et c'est un point de vigilance à avoir quand on aide quelqu'un à arrêter de fumer.
Alors Anne Debrun, nous sommes quasiment au terme de cette émission. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose?
Juste que je suis toujours heureuse de pouvoir partager on va dire mon travail, hein, parce que c'est un travail, je trouve, extrêmement humain et bienveillant, et qu'on essaye vraiment d'aider les gens, et qu'on peut voir à quel point les addictions peuvent, entre guillemets, pourrir la vie de quelqu'un et de son entourage. Et donc, c'est vrai, quand on voit des personnes qu'on a pu accompagner, qui ont réussi à sortir de telle addiction, à quel point ils sont métamorphosés, voilà, ça, c'est une belle récompense. Et c'est vrai que moi, en tant que chrétienne, en plus, ça a d'autant plus de sens de pouvoir voilà, exercer cette profession qui est vraiment une profession, on va dire, de charité à mon prochain. Voilà.
Merci beaucoup Anne Debrun, puis on vous retrouvera pour une prochaine émission sur les addictions.
Au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.